Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveauté discographique.
Interview. Et information internationale.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
Glace entre chaque.
Moi, je vais tomber de rushing.
Nous parlons tous de la logosphère.
Vous êtes
ici. Vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec lui.
Avec moi.
Sur le même ton.
Citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et oui, vous êtes bien sur Divergence FM, le 93.9. Tout s'effondre, chaos, gouffre torrentiel sur le croulant déluge. Alors voici que s'ouvre en sa courbe irisée un splendide arc-en-ciel. Bien sûr, c'est le Tous au poste. Nous sommes partis pour 50 minutes ensemble. Alors, on salue Louis qui est derrière les petits boutons et qui expérimente eh bien, différentes musiques aujourd'hui. Donc, Louis derrière les petits boutons, Julia Chamodon au micro, également Christian Coste aujourd'hui au menu de ce Tous au poste. Il sera question eh bien, du bistrot des ethnologues en la personne de Judith Hayem. Ça sera en première partie de ce Tous au poste. Elle sera interviewée par Christian Coste. Et puis, en deuxième partie, eh bien, nous parlerons de Saperlipopette, voilà en feintillage, le festival de spectacles pour petites et grandes personnes à venir à partir du 8 mai au Domaine d'eau. Mais pour l'heure et sans plus attendre, c'est le moment d'entendre cette petite musique favorite de nos bons plans. Quoi faire aujourd'hui alors que la pluie ruisselle à torrents ? Et on commence en musique avec des haïkus et percussions. Japon, une composition d'Henri Artois sur 9 poèmes du haut Moyen-Âge japonais, avec notamment Léo Richomme à la voix et à la basse électrique, Maglone Vidal au saxophone et Henri d'Artois aux percussions. C'est à 19h à la baignoire, 7 rue Bruès, cours Gambetta, et il vous en coûtera 8 euros. Un peu d'Afrique pour nous réchauffer le cœur et surtout les pieds. Jelly Folly, musique traditionnelle du Burkina Faso, eh bien vous fera rêver ce soir à 21h30 à la pleine lune, 28 rue du Faubourg Figuerolles, l'entrée est libre. Pas très loin, c'est toujours le Drum Festival à Nîmes. Titi Robin est sur les planches ce soir, guitariste et compositeur de renom avec ses compositions de son nouvel album Alezane, musique métissée gitane. Il sera accompagné par The Luis Nascimento aux percussions et Francis Varis à l'accordéon. C'est à 20h au théâtre Christian Léger à Nîmes. Je vous conseille fortement Titi Robin, vous le détour, il vous en coûtera entre 9 et 14 euros. Côté classique, Mephistophélé, pardon, un opéra d'Arrigo Boito, mis en scène par Jean-Louis Grinta ce soir à voir, alors avec l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Patrick Darvin et avec Constantin Gorni, Gustavo Porta, Takesha Meshekiza, Christine Solos et j'en passe, c'est avec les chœurs de l'Opéra de Montpellier, les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie et le chœur d'enfants d'Opéra Junior. Voilà, rien que ça, à voir à 20h à l'Opéra Berlioz du Corum, il vous en coûtera entre 18 et 60 euros tout de même. Dans la gratuité et dans la danse, le Festival In Vitro vous propose ce soir Corps et Art, rencontre de Moinque, une chorégraphie d'Agnès Bonfils interprétée par les danseurs de la compagnie Corps et Art avec des films d'animation d'Arnaud de Moinque. Voilà, si je n'écorche pas son prénom, c'est à 21h au Trioletto, 75 rue Augustin Flich, et il ne vous en coûtera rien du tout. Danse contemporaine à Alès avec Une place sur la terre, un spectacle conçu par la chorégraphe Christine Jouve et le plasticien-performeur Patrick André depuis 1966. C'est avec 6 danseurs et c'est à voir à 20h30 au théâtre Le Cratère Square Pablo Neruda à Nîmes, à Alès, pardon. Il vous en coûtera entre 8 et 12 euros. Nous la recevions la semaine dernière. Lydie Paris nous présente la matrice 1, Le temps des musons, d'après un texte écrit de sa main, mis en scène par Yves Gourmelon et elle-même, avec Claire Engel, Julie Pichavant, Pierre-Jean Peters, Yves Gourmelon, Jérôme Lagarde, sur la création au féminin et le mythe des muses. À voir à 19h à la chapelle, 172 rue Joachim Dubillet, cité jolie à Figuerolles, il vous en coûtera entre 8 et 12 euros. Allez, je parie que ça va vous redonner un petit peu le sourire, on espère en tout cas. Du catch impro, match d'improvisation théâtrale organisé par la compagnie du BAO. À voir à 21h au Kawa Théâtre, 18 rue Fou, qu'il vous en coûtera 10 euros pour rigoler. Pas très loin à 7, Marion Aubert eh bien, nous présente Orgueil, Poursuite et Décapitation, sa nouvelle pièce, mise en scène par Marion Guerrero avec 8 comédiens dont Capucine Ducastel, Adama Diop, Thomas Blanchard, etc. C'est une comédie féroce avec une trentaine de personnages sur le monde professionnel en lien avec le monde familial. À voir à 20h30 au Théâtre Molière, avenue Victor Hugo à 7. Pour enchanter vos enfants, les marionnettes à Béziers, Augustin le Magnifique, un spectacle de marionnettes 2 est mis en scène par Dominique Latouche. À partir de 6 ans, à voir à 18h15 à la MJC à Béziers. Les réservations se font au 04 67 31 27 34, 04 67 31 27 34 pour une toute petite entrée à 2,50€. Et quand je vois la pluie dehors, ça donne envie de boire. Une conférence sur le thème vin effervescent du secte du champagne et la blanquette avec Florence Ludy, œnologue, et une dégustation prévue à 20h à la maison de Heidelberg, 4 rue des Trésoriers de la Bourse pour une petite entrée à 6€. Parlons du climat, une conférence sur le thème « Trait de côte à la dérive, changement climatique et avenir des rivages de notre région » par Hugues Heurtefeu, pauvre de lui, géographe et coordinateur littoral. Il fait partie de la direction technique de l'EID Méditerranée. À 19h à l'aquarium Marino Strum à Odysseum, les réservations s'effectuent au 04 67 13 05 80. 04 67 13 05 80. Au bistrot des ethnologues, on parle eh bien, de la figure ouvrière en Afrique du Sud avec Suzanne Chazam. On vous en parlera un petit peu plus en première partie de ce Tous au Poste. Sinon, c'est ce soir à 20h30 au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, pour une entrée entre 1 et 5 euros. Du management, on en entend beaucoup parler, c'est un thème d'actualité, je dirais même politique. Une conférence sur le thème management et éthique, est-ce possible ? Avec Florian Mancione, conseil en gestion de ressources humaines, Mustapha Daïdj, économiste et financier, et puis de la poésie avec Fanny Abadi, accompagnée en musique par Max Grèze. C'est à 20h30 à l'Université de Montpellier 1, espace Richter, avenue Raymond Dugrand, route de la mer. Il vous en coûtera 5 euros si vous êtes étudiant, 8 à 13 euros si vous ne l'êtes pas. Allez, si t'es quieres hablar espagnol, if you want to speak English, ou tout simplement te délier la langue, rencontre et échange linguistique en espagnol, allemand, italien, portugais, russe, etc. À 20h à la brasserie Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau, bien sûr, c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour les bons plans du jour. On passe à notre nouveauté de la semaine. Manu n'est pas là pour en parler, mais je vais me faire son chantre. Quatcha, ce quatuor montpelliérain œuvre dans l'indie rock. Leur pop and roll disco vous embarque à travers des mélodies sophistiquées et une énergie dévastatrice. Après leur premier album autoproduit The Female of the Species is More Deadly Than the Male, les voici de retour avec leur dernier opus Mr. Dawn. On écoute tout de suite Pill to Forget. I wanna forget, I wanna leave.
Et ça, c'est l'album de la semaine. C'est bien, ça déménage. Judith Ayem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en anthropologie à Lille. Et on vous reçoit aujourd'hui dans le Tous au poste parce que vous allez participer au Bistrot des Ethnologues ce soir. Vous êtes donc la vedette du Bistrot des Ethnologues.
Mon Dieu.
Le Bistrot des Ethnologues qui, chaque mois, est organisé par l'ARCE, l'atelier de recherche comparative en ethnologie. Et c'est à 20h30 et c'est comme d'habitude le Bistrot des Ethnologues au Baloir à 20h30. C'est une entrée libre. Je crois qu'il y a une petite participation qui est demandée à l'entrée, mais c'est très modique. Alors le Bistrot des ethnologues va avoir, alors j'ai un petit peu du mal à parler parce que j'ai une main qui passe devant moi, j'ai un ingénieur informatique qui est là dans le studio et qui fait des codes devant moi, donc je vous dis un peu ce qui se passe et vous comprendrez maintenant pourquoi j'hésite dans ma parole. Judith Ayem, donc vous allez participer donc à ce bistrot des ethnologues du début du mois de mai sur la figure ouvrière en Afrique du Sud, un livre que vous avez écrit,
oui,
aux éditions Cartala, collection
Cartala,
aux éditions Cartala, collection Hommes et Société, qui est paru en 2008. Et donc ce livre fait la synthèse, si je puis dire, puisque c'est 443 pages tout de même. Mais enfin, la synthèse d'un gros travail que vous avez démarré, un travail de recherche, vous avez démarré en 97.
Oui.
Donc, on le disait tout à l'heure, avant que nous rentrions dans le studio, au siècle dernier. Mais vous avez continué en 99, 2003 et 2005 à aller régulièrement en Afrique du Sud pour étudier, ben, quoi? Pour étudier la figure ouvrière, justement. Mm-hmm. Y a-t-il, alors, je rentre directement dans le vif du sujet. On va pas faire la conférence de ce soir. Hein. Il s'agit de faire une petite synthèse et donner envie aux auditeurs et aux auditrices de venir vous écouter. Je leur précise qu'ils peuvent aussi écouter la conférence en direct sur le site ethnobistro.fr. On dira ça à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud entre 97, où on était encore dans un univers à peine post-apartheid, et puis ces dernières années, la figure ouvrière est-elle différente de ce qu'on trouve en Europe quand on sait que le monde capitaliste écrase les uns et les autres? Alors si en plus on est dans une culture apartheid, s'est-il passé des choses particulières? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet?
Oh là là, je pourrais parler très longtemps, donc je vais essayer d'être synthétique, effectivement, et de donner quelques envies. Je pense que pour bien comprendre le grand changement qui se passe, je proposerais plutôt de commencer par parler de la grande différence entre apartheid et post-apartheid. Il faut déjà poser cela.
Allons-y.
Le grand questionnement qui m'a tiré en Afrique du Sud sur la figure ouvrière, c'est que on a beaucoup vu la sortie de l'apartheid, la fin de ce système ségrégationniste, discriminatoire, raciste, même racialiste, comme je l'appelle dans mon livre, comme quelque chose qui n'adviendrait qu'avec la disparition simultanée de cette politique et de la fin du capitalisme. Et puis, l'apartheid disparaît par la négociation, par l'advenue d'un nouvel État, et c'est pas que les ouvriers qui sont à la tête de ce grand mouvement, même s'ils y participent, et le système capitaliste, il est toujours là, hein, pour vous répondre à votre question. Alors, voire même, il est de plus en plus libéral.
Je vous interromps juste pour rappeler, pour mémoire, hein, que les premières élections démocratiques et multiraciales, c'est 94.
Absolument. Donc vous aurez noté que l'apartheid disparaît avant la mise en place de la démocratie multiraciale. Ce qui m'intéressait, du coup, au regard de ce qu'avait été l'ambition de la disparition de l'apartheid telle que les intellectuels l'avaient pensé, les militants aussi, c'était de se dire, eh bien, quand on va voir les ouvriers eux-mêmes, pas seulement les intellectuels ou les syndicalistes, qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'a été pour eux l'apartheid, de ce qu'est aujourd'hui la période contemporaine. Donc moi, j'ai travaillé à saisir ce qu'étaient les mots des gens, les catégories de pensée des gens, les idées des gens sur ces deux période. Et la grande chose qui émerge notamment, c'est dans la première période, après 94, donc au moment où moi je fais mes enquêtes, le prodigieux engouement des ouvriers sud-africains pour la reconstruction du pays, avec l'idée très forte chez eux qu'ils y participent en tant que fraction de la nation, ce que j'ai appelé leur unanimisme productiviste, et ce en dépit de tout ce qu'ils auraient pu avoir comme grief à l'égard de ce pays. Ils y participent. Alors, c'est des ouvriers indiens, des ouvriers métis, des ouvriers blancs, des ouvriers noirs que j'ai interviewés. Et quand je dis unanimisme productiviste, c'est parce que là-dessus, par exemple, il n'y a absolument pas de différence, quelle que soit leur race, de ce point de vue-là. Ils sont tous d'accord avec cette idée et tous soutiennent la reconstruction à l'œuvre dans le pays, l'invention politique que constitue cette capacité à sortir sans conflit de l'apartheid et en même temps pas strictement collé aux politiques d'État mais avec des propositions diverses. Alors ça c'est un des aspects, je peux en développer d'autres mais peut-être...
Alors juste une question avant, c'est moi ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous êtes intéressé à l'Afrique du Sud?
Alors
l'anthropologue que vous êtes, pourquoi tiens l'Afrique du Sud?
Alors
pourquoi pas la réponse?
Voilà, pourquoi pas. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas exactement ça. Le questionnement pour moi sur la figure ouvrière, un mot que j'emploie pour signifier qu'à mon avis, parler de classe ouvrière aujourd'hui, c'est sans doute un terme qui n'est plus adapté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvriers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des ouvriers qui pensent. Donc figure ouvrière, ça ouvre l'idée d'une multiplicité de pensées et en même temps de la singularité des choses.
On n'est pas dans le concept de la classe ouvrière.
Non, on n'est pas
dans... On a pu le trouver.
Voilà. C'est plutôt l'idée que sans doute ce concept, il est périmé, pas seulement pour les chercheurs, mais aussi dans la tête des gens, que l'idée d'antagonisme systématique capital-travail, c'est peut-être plus ce qui est opératoire pour penser les situations et que pourtant, il faut bien se donner les moyens de les penser.
La lutte des classes, c'est fini. Alors.
La lutte des classes, c'est peut-être plus le paradigme le plus efficace et le plus opératoire dans la tête des gens. Alors après, on peut discuter, mais en Afrique du Sud, c'est pas un antagonisme tranché que j'ai rencontré. Alors en fait, pourquoi je suis venue en Afrique du Sud? Parce que j'avais commencé à enquêter en Angleterre, mais je m'étais confrontée aux ouvriers anglais dans l'après-Thatcher, décimés. Figure politique des ouvriers anglais, rien. Et moi, j'étais en quête du renouveau de cette figure, mais aussi avec des espoirs, non pas militants, mais en tout cas de voir aussi qu'est-ce que ça pouvait être le déploiement politique de cette figure. En Angleterre, rien. Et puis, je découvre un peu par hasard, en tant qu'étudiante, la situation extraordinaire de la sortie de l'apartheid. Et je me dis, mais comment vont-ils s'en sortir? Des Indiens, des Blancs, des Métis, des Noirs, une ségrégation drastique depuis toujours, et ce projet de revivre ensemble. Et au cœur de ça, de tous les textes que je lis à l'époque, l'idée que ce qui a fondé l'apartheid, c'est le capitalisme, donc le lien ouvrier et l'usine au cœur de ces enjeux. Et je me dis que c'est tout à fait important d'aller voir dans les usines sud-africaines, finalement par le bas, par le citoyen lambda, qu'est-ce que devient cette Afrique du Sud? D'abord parce que les lieux de production étaient un des lieux où blancs, noirs se fréquentaient, alors que dans les principaux espaces publics, ils étaient strictement séparés. Donc un lieu un peu inédit dans l'avant, pendant l'apartheid comme dans l'après, des lieux où ils vont le plus se fréquenter,
enfin,
aussi.
Ils se fréquentaient, mais les ouvriers étaient essentiellement noirs ou métis ou indiens.
Les ouvriers étaient...
Déjà une ségrégation capitaliste.
Tout à fait. Mais à l'intérieur de l'usine, c'était un des seuls lieux où il y avait des rapports entre des supérieurs qui étaient nécessairement blancs et des ouvriers qui étaient nécessairement noirs, puisque la loi a imposé ce qu'on appelait le job reservation, la restriction des postes qualifiés aux seuls blancs. Donc par rapport à des espaces de vie qui étaient strictement séparés, la production, c'était quand même quelque chose de commun. Il y avait quand même des contacts à cet endroit-là, extrêmement brutaux, extrêmement ségrégés aussi, avec des législations différentes, avec des limites. Mais c'était malgré tout un des lieux où il fallait un minimum interagir pour travailler. Donc comment ça se passait ou ça se passait pas, c'était une question. Et puis du coup, après l'apartheid, ça devient aussi un de ces lieux où peut-être on peut saisir comment ça se réconcilie, comment ça travaille ensemble, comment ça recrée du lien. Et de ce point de vue-là, l'idée d'utiliser l'usine comme cristallisateur un petit peu de ce moment s'est montré pertinente et productrice.
Alors justement, vous avez voulu mettre à jour la singularité de ce qui se joue en Afrique du Sud dans les relations au travail. Ah ah, quelle singularité !
Alors, quelle singularité ? Première singularité, on en a déjà pas mal parlé finalement, puisque singularité de relever qu'effectivement, alors que le discours de classe avait prédominé sur l'analyse de l'apartheid, c'est pas en ces termes que les gens se parlent et se pensent. Deuxième chose, des choses très inattendues. Qu'est-ce que c'est la singularité de l'usine après l'apartheid pour les ouvriers ? Eh bien, c'est un endroit dans lequel ils disent maintenant on communique. Alors, quand l'anthropologue saisit ça la première fois, il se dit « Mais de quoi il me parle? C'est quoi cette histoire de communication? On est dans la publicité? On est dans quoi ?» Et en fait, la saisie singulière de ce qu'est le moment de la fin de l'apartheid pour les ouvriers, ce qui, à leurs yeux, qualifie, si je peux utiliser ce terme, l'usine de l'après-apartheid, c'est la réinstauration de l'interlocution entre blancs et noirs. C'est-à-dire que ce qui a caractérisé à leurs yeux l'apartheid, outre tout le système de loi, c'est que la production à l'usine se faisait sans possibilité de dialogue. C'est pas que les usines étaient silencieuses, c'est pas qu'on ne s'y exprimait pas. Mais le noir, la façon de signifier au noir supposé inférieur au blanc, selon l'apartheid, qu'il était un inférieur, c'était de ne pas le considérer comme un interlocuteur. Sa donc, pensée n'était pas considérée.
Donc, par exemple, pas de syndicat.
Alors, des syndicats très étouffés, qui n'émergent que dans les années 70, mais des syndicats qui sont d'abord exclusivement blancs, la réinstauration de syndicats multiraciales est très difficile, puis même au-delà de cela, simplement le fait que vous avez des ouvriers noirs qui racontent que le contremaître était blanc, parce que pour être contremaître, il fallait être blanc, il connaissait rien au boulot, éventuellement, puisqu'il était arrivé là par la simple couleur de sa peau, mais on pouvait pas lui dire, mais t'es en train de faire couler la machine, là, en mettant trop de sable, oui. Parce que on n'avait pas droit à la parole. Donc, ce qui singularise l'usine de l'après, c'est la possibilité de se parler à nouveau et l'idée qu'en se parlant, on peut être ensemble soucieux d'une bonne production qui contribue à l'idée du pays. Et c'est en ce sens que l'usine est le lieu de l'instauration du dialogue et aussi le lieu d'un sentiment national qui se dit comme ça. Nous, les ouvriers sud-africains, nous contribuons à reconstruire l'Afrique du Sud.
Alors, vous avez commencé ces enquêtes en allant observer ce qui se passait dans des usines de équipementiers automobiles. Mmh. Donc là, on est vraiment dans le monde ouvrier, hein, où on fabrique, on transforme, on manufacture, etc. Entre le moment où on a des élections où l'apartheid est aboli, c'est dans 91, hein,
c'est 90, juste,
90,
ouais.
Voilà, c'est ça. Non, 91, c'est la qu'est-ce qu'il y a eu en 91?
90, libération de Nelson Mandela.
C'est ça, voilà.
Et dans les
sous le régime de Clerc, qu'il y a eu le.
Voilà. Bon, voilà.
Vous arrivez là-bas en 97.
Mm-hmm. En fait, 96, mon premier.
96, donc 2 ans après les premières élections. Mm-hmm. Quoi. Y a-t-il eu un changement dans ces usines? Est-ce que, par exemple, des Noirs se sont dit, on part ailleurs, on change de métier? C'est une question, hein, comme ça, et on va faire autre chose, parce que justement, on a la possibilité de faire autre chose. Je dis ça parce que vous dites que des postes étaient forcément de fait réservés par essence apartheid, entre guillemets, t'es blanc, t'as l'argument d'autorité, tu peux faire ça. Là, il s'est passé quelque chose. Donc, dans l'usine, ça doit changer quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a des contremaîtres qui peuvent être indiens, métis.
Alors, effectivement, une des mesures phares du gouvernement de Nelson Mandela, c'est de mettre en place ce qui s'appelle l'affirmative action, la discrimination positive, si on traduit chez nous. Mmh. C'est-à-dire cette idée qu'il faut privilégier le recrutement sur des postes qualifiés, justement, de personnes dites non blanches. En réalité, on pense souvent principalement aux personnes noires, puisque dans la gradation des droits qui suivaient la teinte de la peau, les Indiens et les Métis étaient un petit peu moins maltraités que les Noirs, on va dire. Et donc, a priori, il y a cette mesure d'affirmative action qui devrait permettre de bouleverser pas mal les statuts. La réalité des choses, c'est que quand on a empêché les gens de se former pendant des années, il ne suffit pas d'un claquement de droits pour qu'un ouvrier fondeur puisse devenir manager. Donc, si on regarde de ce qui est le plus visible dans le pays à l'époque, il y a ce qui s'est appelé le window dressing, la mise en vitrine, et on a des cadres noirs qui roulent dans de brillantes BMW, qui sont un petit peu promus de telle sorte à pouvoir dire, voilà, on a notre quota de non-blancs à la tête des usines.
Chacun, c'est Rachida Dati et Fadela Amara.
Oui, bon, je crois que...
Sans aller jusque-là
la comparaison est un petit peu... Disons qu'il n'y a pas cette idée de... c'est pas la diversité qui est en question, c'est pas la promotion par communauté, c'est un rattrapage des inégalités créées par l'apartheid.
Non, mais je dis ça parce qu'il y a une question sur l'identité nationale.
Oui, mais n'allons pas trop vite, sinon on va vite mélanger.
Mais je repasse en seconde.
Voilà, comment ?
Je repasse en deuxième.
Voilà, donc je veux juste finir sur affirmative action, ça me permettra de mieux répondre sur l'identité nationale. Donc il y a ce window dressing pour les plus qualifiés, et puis pour ce qui est des usines pour les gens moins qualifiés, il y a a priori une même capacité à progresser. intéressés. Et ce qui est intéressant, c'est que en réalité, chaque usine va s'en accommoder à sa façon. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique. À l'époque où je fais les enquêtes, il n'y a pas de. On est en train de tâtonner. C'est un petit peu comme on a mis en place les 35 heures. On a dit on va les mettre en place partout, mais en réalité, il n'y avait pas de cadrage général. Donc chacun a fait à sa sauce, c'est-à-dire un peu n'importe comment dans les deux cas. Affirmative action et 35 heures. Pour les ouvriers, ça peut être très variable d'une usine à l'autre. Et ça provoque probablement beaucoup de ressentiments parfois, notamment pour les groupes, les ex-groupes raciaux qui se trouvaient un peu en sandwich entre blanc et noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les usines où les gens sont interpellés, où j'interpelle les gens sur cette question, ils déploient quant à eux, en général, une idée de l'équité et de la capacité à progresser sur son travail, à être promu en tenant vraiment compte du travail. Ils ne s'inscrivent pas, si vous voulez, dans l'idée que c'est forcément sur la couleur de peau qu'il faudrait s'appuyer. Ils sont eux-mêmes pris dans ce système qui va les promouvoir ou bien les maintenir dans un job inférieur parce qu'ils sont indiens. Mais leur façon de poser les choses, c'est plutôt de proposer que ce soit la qualification ouvrière et une reconnaissance du travail qui n'avait pas lieu qui soit promue. Donc de ce point de vue-là, ils essayent plutôt de prendre leur distance avec cette dimension. Et ça donne lieu à des dialogues importants.
Alors il nous reste 3 minutes peut-être pour parler justement de l'identité nationale, de ce débat sur l'identité nationale qui s'est fait jour depuis plusieurs années déjà avec Zuma, entre autres, en Afrique du Sud. Ça les influence, ça, sur la figure ouvrière?
Alors, disons qu'il y a eu un grand moment de rupture subjective pour moi en Afrique du Sud, que beaucoup de vos auditeurs ont sans doute, connaissent sans doute, c'est mai 2008 et les émeutes xénophobes. Et les émeutes xénophobes, donc, ce sont des violences qui ont été allongées endroit essentiellement de personnes africaines, mais vivant en Afrique du Sud, mais n'étant pas sud-africaines, elles constituent pour moi la signification très nette que ce sentiment national collectif, il est complètement, il explose sous un autre clivage, un nouveau clivage.
Les Zoulous,
clivage entre, moi je tiens que le principal clivage de mai 2008, c'est entre sud-africains et non-sud-africains.
D'accord.
Alors bien sûr, il est nourri. Alors après, il faut aller regarder dans le détail, et là l'enquête reste en partie à faire. Il est certainement nourri par des revendications identitaires, raciales, d'un Zuma, mais ce n'est pas le grand clivage le plus manifeste. Le plus manifeste, c'est entre cette Afrique du Sud sortie de l'apartheid, dont on attendrait qu'elle soit progressiste, et qui semble se raidir sur une vision nationaliste qui irait à l'encontre du reste du pays. Là-dessus, Zuma fait son lit avec l'identité Zoulou, les jeunes de la Youth League, de l'ANC aussi. Mais je pense qu'avant de vouloir ethniciser ce débat, il faut regarder comment il s'est configuré là, et enquêter précisément. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la fin de l'unanimisme et du sentiment national sud-africain qui avait émergé dans les années 90.
Et c'est aussi la fin de notre entretien dans ce Tous au poste. Le temps passe très vite, mais justement, c'est passionnant parce que là, moi, ça me donne envie. Donc, j'invite les auditeurs et les auditrices à venir à 20h30 au Baloir pour écouter donc la conférence de Judith Ayem. Il y aura des questions, des questions qui peuvent être posées dans le public et des questions qui seront posées sur un chat que vous retrouverez sur ethnobistro, donc ethnobistro.fr. Vous pouvez suivre donc en direct, en streaming, sur cette conférence ou vous rendre au Baloir, boulevard Louis Blanc à Montpellier. Judith Ayem, merci. Bonne conférence ce soir.
Merci
à vous. Et puis, bravo pour ce travail, parce que effectivement, c'est peut-être un peu par hasard, après être allé en Angleterre, vous êtes allé en Afrique du Sud, mais c'est une bonne idée. Merci d'être venu sur Lausanne.
Merci à vous.
Right through.
Radio.
Et on écoutait I'll Never Be Human, c'est bien le troisième titre de l'album Mr. Down de Quatcha. Tout de suite, on passe et bien à notre deuxième partie de Tous au Poste, c'est bien sûr et bien la 13e édition de sa perlipopette. Voilà, Enfantillage, un festival de spectacles pour petites et grandes personnes avec un public à dominante familiale. C'est une initiative qui est née par le Conseil Général sur le domaine d'eau il y a de ça 13 ans, en compagnie de Jean-Claude Fall, je le rappelle. Et voici la 13e édition du 8 au 30 mai 2010 à Montpellier et en voyage dans l'Hérault. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Grison qui s'occupait de la programmation et de l'organisation et qui fait partie du domaine d'eau. Bonjour.
Bonjour.
Également de Guillaume Allory qui lui travaille sur les souliers rouges.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux. Alors la 13e édition, qui dit nouvelle édition dit peut-être nouveau mot d'ordre, nouvelle démarche. Quel est justement les nouveaux chemins pris pour cette 13e édition, pour sa perlipopette?
Disons que cette année, ça reste une édition qui est sur le même format que les autres éditions que depuis 13 ans. Donc, en fait, au niveau des institutions ou des directions, donc on reste sur un mode tripartite entre le Conseil Général, le Théâtre des 13 Vents et nouvellement donc l'EGPIC du Domaine d'Eau. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de grands changements cette année. On peut juste sentir une pointe de changement par rapport à notre nouveau directeur donc du domaine d'eau, qui lui est très préoccupé par le réchauffement climatique et qui nous a un petit peu insufflé à nous diriger vers un domaine sur l'écosystème, la biodiversité, la dégustation, le goût et tous ces ateliers-là qu'on va développer en fait sur le festival.
Oui, je crois même que Christopher Krems a voulu sensibiliser au respect de l'environnement en réalisant des animations pour les enfants en parallèle des spectacles produits dans le festival.
Voilà, tout à fait.
Alors justement, un festival qui est à la croisée des arts, on peut voir du théâtre que du cirque, des marionnettes, de la danse, du conte. Quel est le choix de programmation? Qui a fait le choix de programmation? Je crois que c'est autant le domaine d'eau que le théâtre des 13 ans. Et comment avez-vous rencontré les compagnies? Comment les avez-vous choisies? Alors peut-être qu'on peut en parler avec vous deux, vu qu'on a d'un côté une compagnie et puis de l'autre un programmateur.
Donc en fait, c'est un travail qu'on mène depuis quelques années avec Claudine Arignan, qui travaille, elle, au théâtre des 13 ans. Et donc, nous partons l'été sur les festivals. Nous sommes toujours très sensibilisés à tout ce qui se passe au niveau régional sur les spectacles jeunes publics. Donc tout ça, on est toujours éveillé par ce désir de présenter des nouvelles formules ou des spectacles qui nous intéressent, des vrais coups de cœur. Et tout ça, ça fait en fait une saison, une édition.
Alors là, je rappelle qu'il y a 20 compagnies hein, qui sont accueillies sur tout le festival, dont 5 qui sont départementales.
Oui, tout à fait.
Donc c'est quand même une volonté de faire vivre un petit peu le spectacle vivant de la région, je dirais.
Ah oui, on a toujours accueilli sur ce festival, sa perlipopette, voilà, Enfantillage, aussi bien des spectacles qui viennent des compagnies régionales que aussi des accueils nationaux ou étrangers, quoi.
Toi, Guillaume, tu réalises les lumières du spectacle Les Souliers Rouges, un spectacle à partir du 8 ans, un spectacle de théâtre qui lui sera en voyage. Hein, on en parlera un peu plus tard, mais il y a également des spectacles qui sont un petit peu en voyage dans la région. Comment tu as été, comment la compagnie a été appelée par les programmateurs de sa perlipopette? Comment ça s'est organisé?
Comment ça s'est organisé? En fait, nous, en termes de compagnie, on est au courant qu'il y a des programmateurs et en fait on les invite à venir voir nos spectacles quand on les produit en région ou hors région. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Isabelle et Claudine, c'est-à-dire qu'on les a invités à venir voir une présentation de spectacle et pour savoir si ça correspondait à la programmation d'Enfantillage et pour pouvoir participer au festival. Enfin, c'est comme ça que ça se passe.
Donc c'est un spectacle qui a déjà tourné.
Oui, c'est un spectacle qui a été créé en 2008, donc qui a déjà une quarantaine de dates là.
D'accord. Et c'est un spectacle qui raconte quoi?
Alors, Les Souliers Rouges, c'est l'histoire de deux filles, on dira ado, pré-ado, enfin âge indéterminé, et qui vivent soi-disant dans une favela ou dans un quartier pauvre d'une ville du sud, et qui décident un jour de s'enfuir, d'aller ailleurs.
De partir pour du meilleur.
De partir pour du meilleur, d'aller vers ce qu'ils appellent le sud, parce que le sud c'est mieux. Et donc elles décident de s'en aller, Et donc, tout s'ensuit toute une discussion, parce qu'il y en a une qui a plutôt peur de partir, de quitter son quotidien, parce que son quotidien le connaît, au moins, et d'aller vers l'inconnu, alors que l'autre est attiré vers justement cet inconnu, parce qu'elle croit fondamentalement que c'est là que sera mieux, quoi.
Comment on parle de sujets difficiles comme la disparition ou le changement de milieu, le changement de pays, aller vers le sud? Comment on en parle pour des enfants?
Oui, mais là, aller vers le sud, c'est grandir en fait. Mmh. C'est devenir, ouais, c'est avoir une maturité en fait à travers ce voyage-là. Donc c'est pas un sujet difficile. D'accord. En soi.
Non. De façon très terre à terre, il y a un éloignement géographique. Après, il y a toute une symbolique de l'écriture, justement, de la passation de l'enfance vers l'âge adulte ou qui se trame derrière l'écriture, en fait. C'est surtout l'auteur, en fait, qu'il faut interroger là-dessus. Parce que...
Si Daniel Licatini, si tu nous écoutes.
Ouais. Donc, une auteure italienne.
Une auteure contemporaine italienne. D'accord. Fait, qui écrit encore et qui a un théâtre en Italie.
Et la mise en scène est signée Amélie Nourot.
Voilà, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est en atelier, justement aussi dans le cadre d'enfantillage. Elle a fait des ateliers avec préparatoires aux interventions du spectacle. Et donc, c'est pour ça que je la remplace alors que je ne suis que technicien.
Oui, mais moi, je suis très fière d'être venue avec un technicien parce qu'on ne leur donne pas souvent la parole, je trouve, à l'antenne. Et que du coup, c'est bien aussi d'avoir cet éclairage.
C'est vrai, ils sont souvent tapis dans l'ombre. 20 compagnies accueillies sur tout le festival, donc 5 compagnies départementales. Qu'est-ce qui fait le spectacle jeune public actuellement? Ça peut paraître comme une grande question, mais...
Oulala, quelle grande question.
Guillaume, je t'invite à répondre également. Hein.
Non, disons que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une évolution énorme cet an dernier sur les spectacles jeunes publics. Avant, on parlait de rien aux enfants, et depuis une dizaine d'années, on parle de tout. Mmh. Donc le changement, d'ailleurs aussi, on voit que dans les festivals, différents festivals, le public est là, présent. Donc c'est vraiment, c'est devenu une rencontre, une habitude. Le public répond présent, et en même temps les compagnies racontent d'autres choses et émerveillent aussi les enfants et les parents. Donc,
elle les émerveille, elle parle également de sujets difficiles. Alors peut-être pas comme la fuite pour grandir dans les souliers rouges, mais on y parle dans tous ces spectacles de mort, de misère, d'inceste, etc.
Oui, mais...
Alors comment on traite un spectacle pour qu'il soit abordable pour un jeune public?
Oui, mais des fois il y a des sujets graves, mais quand on sort du spectacle, on n'est pas forcément plombé, comme on dit actuellement, mais au contraire, on peut en sortir avec une certaine légèreté. Mmh.
Oui, puis si on ne peut plus parler de rien des enfants, ça serait triste.
Oui, voilà.
Finalement, ce n'est pas l'histoire, c'est un petit peu le traitement de chaque spectacle qui fait qu'il y a une transmission, je pense. En tout cas, par le merveilleux, par des imaginaires, par des images qui se croisent.
Oh bah oui, de toute façon, c'est chaque compagnie qui monte un peu sa scénographie et qui fait que, voilà, elle transmet une idée générale, mais elle le transmet à travers une exploitation avec des images, avec du son, avec de la lumière, qui fait que, en fait, les enfants adhèrent aussi.
Actuellement, la place du spectacle jeune public en France, qu'est-ce que ça donne ?
J'ai pas lu récemment des articles dessus, mais je pense qu'il y a de plus en plus de place au spectacle jeune public. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que en général, si c'est pour les jeunes, on dit petit spectacle, petit moyen. Et ça, c'est vraiment dommage parce que il y a des compagnies qui mériteraient d'avoir plus de moyens pour pouvoir défendre des projets.
Toi, Guillaume, Mes souliers sont rouges, c'est un spectacle pour enfants particulièrement. Vous l'avez donc tourné dans d'autres festivals de spectacles pour enfants ou non ?
Non.
Est-ce que, non, c'est la première fois
c'est
que vous
fois
inscrivez dans un tel cadre.
Ouais, c'est la première fois qu'on joue dans un festival. Pour revenir sur le traitement et de savoir du jeune public, il faut savoir quand même que le jeune public, ça reste un public et c'est un public en prise avec le réel aussi. Mmh. Donc on n'a pas besoin de changer le propos ou de, on va pas raconter autre chose que la réalité. Effectivement, il y a toujours une façon de traiter pour que on peut se rapprocher de leur propre imaginaire ou faire rêver un peu sur des choses dures. Sauf que la réalité est dure et que on leur raconte des choses aussi qui les concernent en fait. C'est différent de faire un spectacle pour les enfants et un spectacle sur les enfants. Mmh. C'est quelque chose de faut pas s'extraire en fait du public, quoi. Et quand on parle à des enfants, on en parle normalement. On n'est pas besoin de d'infantiliser, de faire de la langue, de faire. C'est pour ça que ça peut paraître choquant qu'il y ait beaucoup de plus en plus de spectacles sur la réalité. Et en fin de compte, c'est je trouve que ça prouve qu'on les considère encore plus en fait, parce qu'on se met tous au même niveau, quoi.
Ça me fait penser aux livres qu'on trouve dans les librairies en ce moment, Papa et Maman divorcent, ou ce genre de sujets, voilà. Finalement qu'on n'abordait pas avant, qui étaient beaucoup plus dans l'ordre du tabou, et qui font surface maintenant dans les spectacles, dans des productions littéraires, etc. Voilà, on considère vraiment les enfants. Enfin, j'ai l'impression.
Tout à fait, oui.
Revenons au festival. Parallèlement au festival, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a également des activités proposées dans le parc. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose lorsqu'on se balade dans le parc du Domaine d'Eau, qui est un très joli parc, je le rappelle au passage. Qu'est-ce qui se passe comme activité ?
Bon, alors justement, donc, disons, dans la thématique de préserver la planète, donc il va y avoir des ateliers. Donc, par exemple, chaque année, Avis de Chantier venait au festival, parce qu'il travaillait avec des classes de l'aglo à partir du mois de janvier. Donc, Avis de Chantier, c'est une association de plasticiens qui est sur Villeneuve-les-Maglones. Et cette année, ils ont décidé de travailler sur un programme qui s'appelle « Objet, raconte-moi une histoire de biodiversité ». Voilà. Donc, alors, je ne sais pas trop ce que ça va être, moi, mais en tout cas, ils ont travaillé l'idée de champs, de blé, de culture, etc. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier atelier. On va avoir un autre atelier qui est en fait un atelier de dégustation de jus de fruits bio et aussi peut-être d'eau pétillante ou plate. Donc c'est une femme œnologue et un dégustateur qui va venir proposer aux enfants des différentes saveurs de fruits et essayer de les reconnaître.
D'accord.
Voilà, ça c'est une grande nouveauté. On l'avait pour le vin, mais pour les enfants, on l'a adapté au jus de fruits. Voilà. On a une association aussi qui va venir, qui s'appelle Eau pour la vie, et qui va nous proposer en fait un petit travail, un atelier sur le transport de l'eau à base de bambou, de calebasse, de bambou, parce que c'est une association qui travaille beaucoup avec l'Afrique.
D'accord.
Voilà, donc ils ont eux-mêmes des activités en Afrique et ils aident des programmes, mais à propos de l'eau. On a travaillé aussi avec les petits débrouillards sur le Languedoc-Roussillon. Donc eux, ils vont nous proposer des sciences amusantes. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera des petits défis qu'ils vont donner aux enfants. Et puis, voilà, toute l'après-midi, ils vont animer tout un stand de petits défis scientifiques. Bon, je ne sais pas trop encore ce que c'est, mais voilà.
Alors, ces ateliers, parce que là, leur tourne, du coup, on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur tous les ateliers un par un, mais c'est des ateliers qui sont menés par des compagnies qui sont diffusées sur le festival en même temps.
Non, les ateliers sont menés plutôt par des associations.
D'accord, comme vous le disiez, les petits débrouillards, etc.
L'eau pour la vie.
D'accord. Et donc ces animations sont donc... vous pouvez donc amener vos enfants le 8, le 9, le 15 et le 16 mai au Domaine d'Eau pour suivre ces animations-là, si je ne me trompe
Alors,
pas.
Alors justement, par rapport au fait de venir sur le Domaine d'Eau, donc effectivement il y a le tram, mais il y a surtout les vélos et il y aura l'association le Vieux Biclou, qui va donc nous proposer de s'initier à la réparation des vélos. Donc amenez vos vieux vélos et peut-être vous aurez un diagnostic sur pourquoi vos vélos ne marchent pas et vous pourrez repartir avec beaucoup mieux.
Du 8 au 16 mai, c'est au Domaine d'Eau. Je rappelle que c'est un festival aussi en voyage avec 44 représentations sur 24 communes. Puis une forte présence à Castries, il y a 12 représentations dans ce village-là. Ça témoigne d'une volonté d'aller chercher les enfants chez eux, d'étaler un petit peu le festival.
Oui, enfin, c'est une des forces du festival, puisque effectivement, il y a peu de festivals qui se déambulent comme ça sur l'agglomération de Montpellier ou sur le département.
Ça parle l'hypopète, voilà Enfantillage, du 8 au 30 mai 2010, on va rendre l'antenne puisqu'il est l'heure, c'est à Montpellier et on voyage dans l'Hérault. Plus d'informations, eh bien, je vous invite à consulter les sites théâtre-13vent.com, hérault.fr ou domaine-do-34.eu. Voilà, je crois que j'ai tout dit, si vous voulez rajouter quelque chose Isabelle Grison avant de nous quitter.
Oui, oui, moi j'aimerais bien que le soleil vienne avec nous aussi.
Allez, on vous souhaite beaucoup de soleil alors. À très bientôt et merci à vous deux.
Merci.
C'est ainsi que s'achève cette édition de Tous au poste. Julia Chamaudon, Christian Coste, Louis aux manettes, ainsi que Pascal, vous remercie de l'avoir suivi. À venir sur le 93.9 de Divergence à 13h20, ce sera Chameaux amers, l'eau à la bouche à 13h30, et puis divergence-fm.org pour le reste du programme.